large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, nous sommes de retour dans ces locaux agonois de la Fondation Atelier d'Artistes avec nos invités Léa Béguin et Philippe Quesnel qui tous les deux ont assuré l'organisation de cette exposition « Femmes et artistes après 1930 ». On va en parler. Alors, il y a trois notions à aborder, c'est femmes, c'est artistes et c'est après 1930. On va commencer par la dernière. Léa Béguin, pourquoi cette date? Elle a quelque chose de particulier? C'est un passage?
En fait, c'était à partir de cette date-là qu'on a des œuvres des artistes, donc il a fallu à un moment mettre une date,
voilà.
Et du coup, c'était ce titre qu'on a donné.
Bon, j'ai regardé un peu ce que j'ai trouvé, hein. On va voir qu'un des objets de cette exposition, justement, on ne trouve pas grand-chose sur ces femmes artistes, mais enfin, il y en a qui sont nées au tout début du siècle, qui avaient donc une trentaine d'années après 1930, d'autres qui sont encore en vie.
On en a 6 qui sont encore en vie. Et 4 qui sont encore actives.
Bon, qui sont-elles ces femmes? On va peut-être pas toutes les citer, mais Philippe Quesnel, des femmes peintres pour la plupart?
Pour la plupart peintres, avec beaucoup de dessinatrices et des graveuses. La gravure joue un rôle important dans les carrières féminines. Un petit peu comme d'ailleurs la vidéo jouera un rôle important dans les années 1970. L'art vidéo sera vraiment pris, approprié
par
les femmes comme un instrument de revendication et comme un instrument d'expression artistique. La gravure joue ce rôle
On va y arriver tout de suite. Hein. Il y a une invisibilisation des femmes dans le monde de l'art. On va laisser l'économie, la politique à leurs problèmes dans ce créneau-là, mais dans le monde de l'art, c'est assez clair. En marchant pour venir à vous, je me disais, mais quelles sont les femmes artistes du XXe siècle que je connais? Alors, j'ai pensé à Camille Claudel, mais c'est grâce au film, c'est grâce à Isabelle Adjani.
Grâce à Rodin.
Grâce à Rodin, bien sûr. J'ai pensé à Marie Laurencin, c'est grâce à Jo Dassin. Bon, à part la boutade, c'est vrai que voilà, elles sont invisibilisées, elles sont derrière les hommes. La gravure, c'était un sous-genre qui leur permettait qu'on les laisse faire. C'est un peu ça ou...
Non, c'est une pratique qui leur permettait de travailler en atelier et qui est une pratique aussi qui leur a permis de diffuser leur œuvre. À la différence des œuvres uniques, la peinture est difficile à montrer et à vendre, tandis que la gravure, elle, peut être diffusée, notamment à travers le livre. Là, nous sommes dans une salle où nous présentons des éditions illustrées, et le livre illustré, le livre d'artiste, comme on l'appelle, est un instrument important pour obtenir
une
reconnaissance.
Mais vous avez utilisé le mot revendication, hein. Ça veut dire que c'était plus difficile d'aborder une galerie d'art, de vendre des tableaux.
Les choses ont changé radicalement.
J'espère, là, on parle de j'espère.
Mais alors, ouais. pour revenir à ce que disait Léa tout à l'heure, pourquoi 1930? C'est parce que c'est un peu la première génération des artistes professionnels qui vont essayer de revendiquer un statut équivalent à ceux des hommes peintres, puisqu'on parle de femmes peintres, on ne parle jamais d'hommes peintres, comme si ça allait de soi. Et donc, dans cette première génération, il y a des femmes fortes, vraiment très fortes, des femmes puissantes qui vont présider des sociétés d'artistes, etc., etc. Donc, il ne faut pas nécessairement faire de ces artistes femmes, de ces femmes artistes, de ces créatrices, des figures dominées de l'histoire de l'art. Ça n'est pas du tout le cas, pas toujours le cas.
Alors, c'est probablement pas le cas dans leur personnalité, Léa Béguin, mais dans le grand public, en effet, le patriarcat a fait son œuvre. C'est ça, en fait, le problème.
C'est
on
un
peut
peu
toujours
ça,
ramener à ce mot.
Oui, effectivement, je pense qu'il y a un certain... jusqu'à un certain point où le génie masculin était plutôt valorisé par rapport au génie féminin. Et je pense que oui, effectivement, il y a eu une invisibilisation jusqu'à un certain point. Et c'est vrai que, comme vous disiez, quand on demande à des personnes qui sont moins, qui connaissent moins l'histoire de l'art, quand on demande de citer un nom d'une peintre, une peintresse, on dit aussi. Par exemple, il y a le nom de Frida Kahlo qui sort, mais c'est vrai que c'est un peu...
J'aurais pu penser.
Ouais, voilà. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que... Il y a peu d'artistes qui ressortent comme ça.
Oui, ou des femmes de peintres,
oui,
les
voilà.
Sonia Delaunay, oui, par exemple, etc. Mm-hmm. Et on a ces quatre figures ici dans l'exposition, c'est-à-dire de couples.
Mmh. Ah bah, c'est le cas pour Frida Kahlo avec Rivera, c'est le cas pour Camille Claudel qu'on évoquait, alors c'est la sculpture. Camille Claudel-Rodin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement révélateur. Hein. C'est la partie visible de cet iceberg-là.
Et plus récemment, Yannick Itzinfal et Tingly, etc.
Bon, avec 50 ans de distance peut-être, et puis déjà les choses qui avaient changé, parce que Yannick Itzinfal a eu une vraie renommée et n'a pas été enfermé dans un asile, enfin pour autant que je le sache.
Non, mais regardez à la télévision ou sur internet les interviews de Tinguely et Nikki de Saint-Phal et vous verrez bien comment se jouent les relations de genre, comme on dit, entre artistes hommes et artistes femmes face aux médias.
On s'adresse à l'homme et puis la femme est à côté, hein, c'est ça.
Un peu, mais c'est dans la prise de parole, c'est dans la manière de se positionner, dans les postures. C'est très frappant. Ouais,
ça pourrait faire mal aux Fribourgeois que je suis, mais on pourrait dire que Nikki a gagné. On la connaît plus que Tinguely aujourd'hui, non ?
Actuellement, c'est une superstar, comme Germaine Richier, etc. Elle fait partie un peu de la phase, on pourrait dire, revanche. La revanche des femmes.
Si on parle de Frida Kahlo et Diego Rivera, c'est la même chose. Hein. Diego Rivera était une superstar à son époque. Aujourd'hui, on ne parle plus que de Frida. Bon, on va revenir quand même à ces femmes artistes romandes avec leur destin. Donc, Léa Béguin, on n'a pas affaire à une cohérence de style. Hein. Il y a toutes sortes de styles, toutes sortes de supports. Philippe Canet elle le disait tout à l'heure. Comment vous avez fait? Alors déjà, vous avez indiqué quelque part que la fondation est riche d'artistes femmes. Ça veut dire quelque chose, ça?
Oui, c'est parce qu'on a 30% d'artistes qui sont femmes. Et lorsqu'on regarde par rapport aux collections des musées, c'est beaucoup plus. Mais ce n'est pas la parité, mais c'est beaucoup plus que lorsqu'on regarde les collections publiques ou les collections du musée.
Donc les musées sont plus... voilà, il faut un MeToo musée.
Moi, ça me dit
tout à fait ça, mais c'était parce que les choses sont en train de s'inverser.
Mais alors ça, c'est vraiment, puisque vous êtes historien d'art tous les deux, mais Philippe Canel, je me tourne vers vous, il y a une vraie tendance dans les travaux des historiens, en musique, c'est très clair aussi, on va rechercher les compositrices, au cinéma, on apprend que les premiers films scénarisés, c'est une femme, j'ai oublié son nom, mais ça m'avait assez marqué de l'apprendre. Vous vous inscrivez dans cette vague-là, qui est une vague très positive.
Oui, mais on n'est pas militant pour autant, on n'a pas de cause à défendre. On aimerait simplement rendre compte d'une partie des collections de la Fondation Atelier d'Artistes et se trouve qu'une partie signifiante, enfin importante de ces collections est constituée par des œuvres de créatrices. Donc c'est ça la démarche. On ne va pas, ici, dans le cadre de cette exposition, faire du militantisme. Ça sera peut-être le discours tenu par les artistes qu'on va inviter pour diverses tables rondes, mais on verra. On verra.
On va pas tirer de généralité, mais elles ont eu des vies d'artistes sereines, difficiles, frustrées. Si on pense justement à cette invisibilisation, à cette difficulté à s'accrocher aux cimes des galeries, pour ce qu'on en sait.
C'est très variable.
Des destins variables, bien sûr.
C'est très variable. Tous les artistes ne sont pas Van Gogh ou Picasso, hein. Torturés ou dominants. On a tous les cas de figure dans le cadre de ces artistes. Il y a des femmes qui ont vraiment, comme je l'ai dit, joué un rôle important, institutionnel, des femmes fortes, vraiment, comme Violette Dizeran, Christiane Cornu, Nanette Genoux. Et puis, d'autres femmes qui ont plutôt misé sur soit les arts appliqués, soit une certaine forme d'intimité.
Mmh. Et même, par exemple, Christiane Cornu, elle enseignait, donc elle réalisait ses créations pendant les vacances. Donc il y a aussi... Il y a vraiment des artistes, même si c'était une artiste forte, bah, elle devait quand même travailler aussi en tant qu'enseignante à côté.
Est-ce qu'on a théorisé, Philippe Canel, quand des femmes surgissaient, on parlait de Camille Claudel par exemple, mais il y en a eu d'autres, des impressionnistes, etc. Est-ce que les critiques d'art de l'époque, garants du bon goût, théorisaient une faiblesse de la femme par rapport à la création masculine? Je pense à ça parce qu'en musique, toutes les critiques sur Germaine Taillefer par exemple, qui faisait partie du groupe des Six dans les années 20, c'était, voilà, très bonne musicienne, mais c'est joli, c'est frais, c'est aéré, etc. C'était que des mots comme ça, des mots qu'on estimait devoir étiqueter sur la femme, et jamais on aurait dit les mêmes mots sur Francis Poulain, qui était son copain du groupe des Six, par exemple.
Aujourd'hui, dans un autre domaine qui est celui de la politique, les remarques sur les tenues vestimentaires des femmes sont pas monnaie courante, mais sont fréquentes. On ne parle jamais de la tenue vestimentaire des hommes. Non, indépendamment de ça, c'est vrai que l'aspect femme est un aspect qui a toujours été pris en compte dans le discours critique, souvent de manière critique au sens négatif du terme, mais ça n'est pas le facteur explicatif de leur vie et de leur carrière. Ça n'est pas parce qu'elles sont femmes qu'elles ont réussi ou qu'elles n'ont pas réussi. Il y a toute une série de facteurs qui entrent en ligne de compte. Là, par exemple, on pourrait venir parler de certaines figures exposées pour voir dans quelle mesure certaines venaient par exemple de milieux bourgeois, n'avaient pas trop de questions à se poser pour faire bouillir la marmite. D'autres, par contre, ont vraiment trimé toute leur vie. Certaines ont pratiqué l'abstraction et donc essayé de miser sur cette modernité-là. D'autres ont misé plutôt sur la figuration. Léa a travaillé beaucoup sur l'abstraction, par exemple.
Oui, parce que c'était un mouvement qui, à la première moitié du XXe siècle, était de l'avant-garde, donc qui était considéré comme un geste plutôt viril et masculin. Et donc, à la deuxième moitié du XXe siècle, il y a énormément de femmes qui se sont consacrées à l'abstraction. Donc, pourquoi cela ? Est-ce que tout d'un coup, c'est une manière de s'éloigner d'une certaine féminité, comme vous parliez par exemple dans la critique ? Donc, d'avoir un geste qui va s'éloigner de ces remarques qui peuvent parfois être un peu sexistes, ou juste une manière de pouvoir s'intégrer à des cercles. Voilà, l'abstraction à la deuxième moitié du XXe siècle, c'était adopté, que ce soit aux États-Unis, en France, donc pouvoir aussi rentrer dans des cercles nationaux et internationaux.
Et des cercles de vente, j'imagine.
Aussi, effectivement.
Même s'il ne fallait pas toujours faire bouillir la marmite, il fallait voir, être vu et possiblement vendu. Merci à tous les deux. Cette émission se termine. Femmes et artistes après 1930, donc jusqu'au 7 juillet à la Fondation Atelier d'artistes. Donc c'est dans la Grand Rue de Saint-Maurice et avec quelques événements à samedi. Oui. Juste un mot, c'est ouvert, c'est pas ouvert tout le temps, la fondation.
Non, c'est pas ouvert tout le temps et c'est gratuit.
Ah bah ça c'est bien.
Oui, ça il faut quand même le préciser.
Voilà, c'est ouvert les vendredis et samedis après-midi, les premiers dimanches du mois.
C'est
bénévole, pas les moyens de conserver toutes les œuvres de Suisse romande et en plus d'être ouvert tous les jours.
Non. C'est ça, on peut pas tout faire.
Et en plus il y a une belle publication que vous pouvez acquérir sur place, éditée par les éditions Infolio.
Voilà, qui a le même titre, bien sûr, richement illustré, que l'exposition Femmes et artistes après 1930. Merci à tous les deux.